Rudyard Kipling, l'homélie de l'émir. Son Altesse Royale Abdurrahman, émir d'Afghanistan et fidèle allié de Sa Majesté impériale et royale la Reine d'Angleterre et impératrice des Indes, est un gentleman envers qui tout homme bien pensant devrait avoir un profond respect. Tel maint autre monarque, il gouverne non pas comme il voudrait, mais comme il peut, et le manteau de son autorité couvre la race la plus turbulente qui soit sous les étoiles. Pour l'Afghan, ni la vie, ni la propriété, ni la loi, ni la parenté ne sont sacrés quand ses propres passions le poussent à se révolter. Il est voleur par instinct, meurtrier par hérédité et par éducation, et franchement et bestialement immoral pour les trois raisons. Néanmoins, il a de l'honneur, une certaine idée pervertie, et son caractère est une étude passionnante. À l'occasion, il se battra, sans motif déterminé, jusqu'à se faire hacher en morceaux. En d'autres occasions, il refusera de livrer le combat, jusqu'à se faire acculer dans un coin. Et par là, il est aussi peu compréhensible que l'ours gris, qui est son frère consanguin. Et ses hommes, son Altesse, les gouverne par la seule arme qu'il puisse concevoir, la crainte de la mort, qui chez les Orientaux est le commencement de la sagesse. Quelques-uns disent que l'autorité de l'émir ne s'étend pas plus loin que ne porte une balle de fusil. Mais comme aucun d'eux ne sait jamais au juste à quel moment leur roi peut surgir au milieu d'eux, et que lui seul tient tous les fils du gouvernement, le respect de sa personne en est accru parmi les hommes. Gholam Halder, le général en chef de l'armée afghane, est craint raisonnablement, car il a le pouvoir d'empaler. Toute la ville de Kaboul craint le gouverneur de Kaboul, qui a le droit de vie et de mort dans tous les quartiers. Mais l'émir d'Afghanistan, bien que les tribus lointaines prétendent le contraire, quand il a le dos tourné, est redouté plus que le général et le gouverneur réunis. Sa parole est la loi rouge. Au souffle de sa colère tombe la feuille de la vie humaine, et sa faveur est terrible. Il a souffert 1000 maux et a été un fugitif traqué avant son avènement au trône, et il comprend toutes les classes de son peuple. D'après les coutumes de l'Orient, tout homme ou femme ayant une réclamation à faire ou à demander vengeance d'un ennemi a le droit de parler face à face avec le roi à l'audience publique de chaque jour. C'est là le gouvernement personnel tel qu'il était au jour d'Haroun al-Rachid, d'heureuse mémoire, dont les temps subsistent encore et subsisteront longtemps après que les Anglais auront disparu. Ce privilège du franc-parler ne s'exerce comme de juste que sous un certain risque personnel. Il se peut que le roi y prenne plaisir et élève celui qui parle aux honneurs, comme il se peut aussi que 3 minutes plus tard, cette même franchise de langage fasse jeter un pétitionnaire trop imitatif au tranchant de la lame toujours prête. Et le peuple aime qu'il en soit ainsi, car c'est son droit. Il arriva un jour à Kaboul que l'émir préféra exercer ses fonctions dans les jardins Bébir, situés à peu de distance de la ville de Kaboul. Devant lui se trouvait une table portative, et autour de la table étaient groupés en plein air, selon leur rang, généraux et ministres des finances. La cour et la longue kyrielle de chefs féodaux, hommes de sang nourris et intimidés par le sang, se tenaient autour de la table en un demi-cercle irrégulier, et la brise soufflait parmi eux les parfums des vergers de Kaboul. Tout le long du jour, des courriers suants se précipitaient, porteurs de lettres des districts éloignés, contenant des bruits de révolte, d'intrigues, de famine, de défauts de paiement, ou annonçant l'envoi de trésors. Et tout le monde du jour, l'émir, lisait l'émissive et faisait passer les moins intimes aux ministres qu'elle concernait directement, ou appelait un chef en attente pour avoir un mot d'explication. Il fait bon parler franc, clair, au maître de l'Afghanistan. Et la tête sévère sous le bonnet d'astrakhan noir, portant au front l'étoile de diamant, s'abaissait gravement et le chef retournait auprès de ses collègues. Or, cet après-midi-là, une femme réclama le divorce contre son mari, qui était chauve, et l'émir, ayant ouï les deux parties du procès, ordonna à la femme de verser sur le crâne dénudé du lait caillé, puis de l'enlever avec la langue, ce qui donnerait aux cheveux des champs de repousser, et la contenterait, elle. À cette sentence, la cour se mit à rire, et la femme se retira, maudissant son roi à mi-voix. Mais quand le crépuscule tomba et que l'étiquette de la cour se fut un peu relâchée, il arriva devant le roi, entre deux gardes, un misérable, hagard et tremblant, meurtri de 1000 coups, mais de constitution assez robuste, qui avait volé 3 roupies. Car son Altesse prend connaissance même des plus petites affaires. « Et pourquoi as-tu volé ?» lui demanda l'émir. Quand le roi pose des questions, c'est se rendre service à soi-même que d'y répondre sans détour. « J'étais pauvre et personne ne me donnait. J'avais faim, je ne trouvais pas de nourriture. »« Et pourquoi ne travaillais-tu pas ?»« Je ne trouvais pas de travail, protecteur du pauvre, et je mourais de faim. » »« Tu mens. Tu as volé pour boire, pour satisfaire tes passions ou ta paresse, pour tout sauf pour manger, puisque tout homme qui le veut peut trouver du travail et gagner son pain quotidien. » Le prisonnier baissa les yeux. Il était déjà venu à la cour et il connaissait le ton du roi qui signifie la mort. « Tout homme peut obtenir du travail. Je le sais mieux que personne, moi, car moi aussi j'ai eu faim. Oh non, comme toi, vil bâtard, mais comme il peut arriver à tout honnête homme par le revers du sort et la volonté de Dieu. » S'échauffant, l'émir se tourna vers ses nobles alignés et d'un coup de coude dégagea la poignée de son sabre. « Vous avez entendu ce fils du mensonge? Écoutez-moi maintenant vous raconter une histoire véridique. Moi aussi j'ai eu faim jadis, et j'ai resserré ma ceinture jusqu'au dernier cran. Et je n'étais pas seul, car avec moi il y en avait un autre qui ne m'abandonna pas dans les mauvais jours, quand j'étais traqué avant de monter sur ce trône. Je rôdais comme un chien sans maître aux environs de Kandahar, tandis que mon argent fondait, tant si bien. » Il présenta sa paume nue à l'assistance. Et marchant dans des jours affaiblis et malades, je retournais auprès de celui qui m'attendait. Et Dieu sait comment nous vécûmes, jusqu'au jour où je pris notre meilleur liaf, un litave de soie, beau travail de l'Iran, tel qu'aucune aiguille n'en fait plus aujourd'hui, chaud, et qui nous servait de couverture pour deux, et qui était notre dernier bien. Je montrai dans une ruelle à un usurier, et lui demandai de me prêter 3 roupies sur ce bassin, sans gage. Et il me répondit, à moi qui suis maintenant le roi, « C'est un voleur, cet objet en vaut 300. »« Je ne suis pas un voleur, repris-je, mais un prince de bonne race, et j'ai faim. »« Prince des mendiants vagabonds, » dit ce prêteur. « J'ai pas d'argent sur moi. Allez, va-t'en à ma maison avec mon employé, et il te donnera 2 roupies, 8 armas, car c'est tout ce que je te prêterai. » J'allai donc à la maison avec l'employé, et nous causâmes en chemin. Et il me donna l'argent. Nous vécûmes sur cette somme jusqu'à son épuisement, et nous faisions maigre chère. Et alors, cet employé me dit, car c'était un jeune homme de bon cœur, « Sûrement, l'usurier te prêtera davantage sur ce litaf. » Et il m'offrit 2 roupies. Je les refusai en disant, « Non, non, mais procure-moi du travail. » Et il me procura du travail, et moi, oui, moi, Abdurrahman, émir d'Afghanistan, je peinais des jours comme un coulis, transportant des fardeaux et travaillant de mes mains, recevant 4 annas de salaire par jour pour ma sueur et ma courbature. Mais lui, ce bâtard, fils de rien, il faut qu'il vole. Pendant 1 an et 4 mois, j'ai travaillé, et que nul n'ose dire le contraire, car j'ai un témoin, ce même employé, qui est aujourd'hui mon ami. Alors, se leva de sa place, parmi les sires d'art et les nobles, un personnage vêtu de soie qui joignit les mains et dit « Ceci est la vérité de Dieu, car moi, qui par la grâce de Dieu et de l'émir suis tel que vous me connaissez, je fus jadis employé de cet usurier. » Il y eut un silence et l'émir interpella le prisonnier d'une voix rauque, déversant sur lui le mépris, jusqu'au moment où il termina par le redouter d'Ararid, qui déclenche le bras justicier. On emmena donc le voleur que jamais on ne revit entier, et la cour sortit de son silence en murmurant « Devant Dieu et le prophète, notre roi est vraiment ce qui s'appelle un homme !»